sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien sur l'envolée, 106.3 fréquence Paris pluriel, je le dis dans le mauvais sens. Et on se retrouve tous ensemble pour une heure d'émission anticarcérale. Donc moi je me retrouve au bocal, c'est Serge, c'est toujours un peu chelou. Et il y a Mauve qui est là, salut Mauve.
Salut.
Il y a Greg.
Salut, plein de force à toi Serge, tu vas y arriver.
Et il y a Arthur.
Coucou.
Donc une émission encore bien dense aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer avec la répression qui continue sur les gilets jaunes. Donc ça peut sembler un petit peu en dehors de l'actualité, mais comme on l'a souvent dit à cette antenne, les mouvements sociaux, la répression qui suit les mouvements sociaux est toujours dans un temps vachement plus long. Et c'est important de continuer à suivre malgré le fait, enfin, il existe encore des gilets jaunes. Hein, on va pas dire que c'est fini, mais cette répression, elle continue et donc on va avoir deux personnes qui vont nous parler de tout ça. Et après, on va aller à Lille, où c'est vraiment chose qui se passe au CRA de Lille, où on aura un coup de fil de là-bas. Pour commencer, on va faire un petit point sur le déconfinement qui n'existe pas, voilà, et particulièrement sur une tôle dans l'Aude.
Ouais. La tôle de Villeneuve-la-Grande, je ne suis pas sûr de bien prononcer, voilà, où là-bas, c'est la tôle en fait, où on a foutu le plus de prisonniers à l'isolement parce qu'ils auraient des symptômes qui seraient proches de ceux du Covid-19. Donc, ouais, pour rappeler, parce qu'on a dit plein de fois dans cette émission, c'est que les prisonniers, quand ils ont les symptômes, ils sont foutus à l'isolement, mais ils ne sont surtout pas testés. Les tests dans les prisons, c'est toujours que pour les matons, quoi. Et que du coup, voilà, donc à cette prison de Villeneuve-la-Grande, ils sont 15 à avoir été mis à l'isolement pour, parce qu'ils avaient été, ils sont soupçonnés voilà, d'avoir les symptômes qui correspondraient au Covid-19. Et donc c'est, non, ils sont 19, pardon. Et ces 19, ils ont donc été placés en quatorzaine dans des cellules individuelles, voilà, donc en gros à l'isolement et sans être testés.
Et voilà, c'est toujours les mêmes choses qui se passent, voilà, et qui sont complètement hallucinantes. Et cet isolement, il est complètement inacceptable, voilà. Et donc faut continuer à se battre et tout ça. C'est toujours la même chose aussi concernant des parloirs. Et là, on va avoir une lettre de Chloé. Chloé qui a souvent été présente à cette antenne il y a longtemps, qui était repassée il y a un ou deux ans, si mes souvenirs sont bons, pour parler d'une association qu'elle avait montée qui s'appelait Les Jardins d'été, et qui a toujours des emmerdes avec l'administration pénitentiaire. Et donc là, qui revient là-dessus, c'est une bataille qu'elle a depuis longtemps. Et là, dans le dernier parloir qu'elle a eu, ça a été la merde. Et donc, elle nous raconte ça dans une longue lettre.
Bonjour tout le monde. Fin 2017, Pascal a été transféré de bâtiment sous prétexte que la direction avait reçu une dizaine de lettres de dénonciation stipulant qu'il était agressif, meneur, etc. De ce coup-là, il décide de le transférer du bâtiment C au bâtiment A. Madame Vernière, ce sont des surveillants qui n'aiment pas Pascal et qui ont fomenté tout ci. La directrice était en vacances à ce moment-là. Pascal a maintes fois demandé la copie de ses courriers anonymes. Pascal a maintes fois demandé des explications, mais rien, pas un mot de la direction, simplement c'est comme cela et pas autrement. Là-dessus, nous saisissons notre avocat qui reçoit la même réponse. La directrice revient de vacances et prend le dossier. Au début, elle croit l'histoire des surveillants. Comme elle ne peut pas dire que son personnel s'est trompé, elle confirme les dires et la sanction auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du médiateur ainsi qu'auprès de l'avocat. Nous saisissons le contrôleur général des lieux de privation de liberté, puis le médiateur, tous les deux reçoivent la même réponse de la directrice, et moi, je m'y mets, je lui adresse un courrier, et là, elle m'envoie la même réponse qu'elle a fait à tout le monde. Puis m'adresse un mail, comme quoi elle m'écrira plus tard via la boîte mail, en clair, au revoir. Pascal se met à pleurer, à craquer, moi je me fâche et entame une grève de la faim qui a duré 4 mois et demi. Je contacte le médiateur qui me dit que Madame Vernière, la directrice, a raison, au bout de 4 mois de grève, notre avocat se fâche aussi sérieusement. Des surveillants n'aiment pas Pascal et avec l'absence de la directrice, ont monté cette mise en scène que tout le monde a cru. Vernière, à la longue, s'aperçoit qu'il y a un hic dans cette histoire, mais comme elle a commencé à soutenir ses surveillants et à confirmer au contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur, puis à l'avocat, elle ne peut revenir en arrière au vu de sa position. Elle enfonce donc encore un peu plus, elle s'enfonce encore un peu plus dans un cul-de-sac. Ma grève atteignant les 4 mois, tout le monde assez raisonnable commence à demander ce qui se passe et le tribunal s'en mêle par la voix de notre avocat et demande des preuves des accusations portées contre Pascal. Vernière est invitée à s'expliquer au tribunal, mais elle n'y a pas été la première fois. Puis voyant le coup venir, elle se rapproche de Belloupé qui, sans l'expliquer, normal, elle ne peut pas, ne se présente pas non plus à plusieurs convocations puis refuse d'aider Vernière. Et là, diverses magouilles sur le dos de Pascal sont mises à jour par des lettres anonymes, pas agressives, pas meneurs. Moi, après 4 mois et demi de grève de la faim, j'arrête ma grève et Pascal retourne au quartier C. Là, un des premiers surveillants m'appelle sur le parking à venir dans son bureau. Puis là, il me dit « Vous avez confiance en Pascal ?» Je réponds que oui. Il me dit que dans cette histoire, c'est un menteur. Plainte déposée le lendemain. Là, fin de la première partie. Là, il prépare des cellules de confinement pour le Covid. Pascal est reviré au quartier B et il n'a toujours rien fait, le pauvre. Puis dimanche dernier, les ennuis recommencent. Chronologie des faits. Première fois, le portique sonne, on me dit la broche à cheveux, j'enlève ma broche à cheveux, on ne me propose pas d'autres alternatives de vérification. Deuxième fois, le portique sonne, on me dit la montre, j'enlève ma montre et on ne me propose pas d'autres alternatives de vérification. Troisième fois, le portique sonne, j'enlève mon collier, on ne me propose pas d'autres alternatives de vérification. Quatrième fois, le portique sonne, on me dit « chaussures », on ne me propose pas d'autres alternatives de vérification. Cinquième fois, le portique sonne, là je m'énerve et je dis que je vais enlever ma jupe, comme ça ce sera clair, et on me répond « vous n'allez pas faire cela ». Je réponds « moi j'ai parloir, on fait quoi ?» Rien ne m'est proposé comme autre système de fouille et on me laisse 10 secondes, en 5 secondes, au sens propre du terme, de rage, j'enlève ma jupe et je passe et rien ne sonne. 5 secondes, pas une de plus. C'était la fermeture éclair de ma jupe. Le portique depuis 6 ans de parloir, à compter deux parloirs par semaine, n'a jamais sonné pour ma montre, ma broche, mon collier, mes chaussures, merde, on m'a bien poussé à l'extrême. Mais on ne m'a jamais proposé d'autre système de fouille, rien du tout. Durant le parloir, le major est venu me voir pour me dire que je serais reçue dehors à ma sortie de parloir. Mais pas de problème, moi, bien énervée que l'on m'ait poussée à un tel extrême, car franchement, si l'on ne considère pas que l'on m'a poussée, c'est que je suis folle. Au parloir, là, ma colère grandit. Ils n'ont rien changé des parloirs, malgré le référé de notre avocat. Que notre avocat a gagné. Mais rien du tout. À ma sortie de parloir, j'apprends qu'ils ont pris sur Pascal un petit mot et vous étant adressé, Maître Benoît David, qu'il devait vous dire au téléphone et vous poster et qui était resté dans ma poche. Il l'accuse donc d'avoir tenté de faire sortir un courrier qu'ils ont lu malgré le fait que ce soit adressé à un avocat. Ce qui est faux. C'était des notes pour vous les transmettre au téléphone. Ils avaient simplement oublié dans l'une de ses poches ce bout de papier. Il envisage qu'il aura un rapport. Là, une fois sur le parking, on m'invite à aller dans le bureau. Je refuse catégoriquement. Et on se met à discuter sur le parking. Ils me disent « Vous avez bien enlevé votre jupe volontairement ?» Je réponds « Oui. » Après que le portique a sonné pour ma montre, mon collier, ma broche, mes chaussures. Mais le surveillant vous a bien proposé un autre système de fouille. Je réponds que non, jamais. Et là, on me dit, c'est normal, vous n'avez pas laissé le temps. Je suis morte de voir qu'il ose dire cela. Ça a sonné, donc je suis passée pour enlever ma broche, puis repassée pour voir si cela allait encore sonner, et ça a ressonné. Donc repassée pour enlever ma broche, puis repassée pour voir si cela allait encore sonner, et ça a ressonné, et encore. Si je ne lui ai pas laissé le temps pour proposer un autre moyen, alors que je vienne la veille, peut-être que ça ira, on ne sait jamais. Là-dessus, le major sur le parking me dit que la première fois, monsieur, me dit une première fois, monsieur, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et là, malgré mes appels, j'ai arrêté de compter. Là-dessus, je lui parle des parloirs, sa réponse a été « Vous pouvez tous les référés et procédures que vous voulez. Ici, on fait ce qu'on veut. » Et quand je lui parle du référé concernant les parloirs, sa réponse a été qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir. Et quand je lui ai dit « Mais va et viens du tribunal », c'est un peu comme si on lui disait d'aller boire un diabolomante. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir, puis les ordres, c'est pas pour eux. Mais ils ont adressé à Madame Mininger, la directrice, puis il revient là-dessus et dit que... Bon, là, il enlève son max et continue à me parler. Je le rattrape aussitôt, puis je lui dis que si vous voulez, on peut jouer. Le surveillant du parloir, sans gants, vient me remettre le sac parloir de Pascal. Et là, nous avons Madame Guillaume, l'une des premières surveillantes, qui dit « Oh, vous allez sûrement l'attraper alors ?» Là, elle me dit « Vous savez bien que notre respect envers les détenus est la première des choses. » Là, je lui rappelle qu'elle me connaît et que ce n'est pas le respect dans les prisons, c'est complètement faux. Et que c'est pas à moi que l'on va me dire cela, puis je lui rappelle quelques faits, histoire de bien mettre une image sur certains événements. Là, je me dis dans ma tête, je rêve ou on est dans un nouveau théâtre. Alors, deux ou trois questions, je vais au parloir, à poil ou en mini-jupe, sans chaussures, sans montre, sans broche, sans stylo, sans collier, puis sans tête, sans bras, sans rien quoi. C'est la première fois en 6 ans de parloir qu'il sonne, pour ce qui est écrit dessus, pire qu'une guirlande de Noël. C'est la première fois que je ne m'énerve pas et reste calme. C'est la première fois que je ne m'insurge pas, mais quand même, là, on m'a bien poussé. Alors oui, j'ai enlevé ma jupe pour le parloir. Alors oui, on m'a proposé d'autres moyens de fouille. Alors oui, on m'a bien poussé à bout. On ne m'a pas proposé d'autres moyens de fouille, pardon. Alors voilà, là, le 10 février, j'ai appris un petit souci qui a fait que je n'ai pas mangé, puis le lendemain, pas le moral, donc pas fait à manger. Puis Pascal avait rendez-vous pour du travail juste avant le confinement, et boum, tout tombe à l'eau, et moi, toujours pas mangé. J'en suis à 4 mois depuis le 10 février, j'ai perdu 17 kilos, je mettais du 42-44, je mets du 34 fillettes. Et là, cette histoire n'est pas tout à fait non plus là pour m'aider. Fin de la deuxième partie. À quand les parloirs depuis le déconfinement, c'est par téléphone. Au 06 33 61 74 92. Donc 06 33 61 74 92. Le lundi de 14h à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 11h30. J'appelle le jeudi à 11h25 car dans l'entreprise, je n'ai pas le droit d'avoir mon téléphone pour avoir un parloir le dimanche. Je tombe sur répondeur. Je ne cesse d'appeler et toujours la même chose. Le lendemain, j'appelle à la direction et là, on me dit « Non, trop tard, fallait appeler hier. Dimanche, c'est son anniversaire. Seul, triste, dans un mauvais quartier. » Je tiens à préciser que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que le médiateur ne se sont pas excusés auprès de moi après que je leur ai envoyé le jugement précisant que j'avais raison alors qu'ils maintenaient que Vernière avait raison.
Ouais, ouais. Bah, cette lettre, elle se passe de commentaires parce que tout est dit, en fait, sur l'impossibilité d'avoir les parloirs en ce moment et tout. Juste une petite précision, quand elle parle des référés, Chloé, ça a été, elle a attaqué avec Benoît David sur le fait qu'il y ait des hygiaphones. Et le tribunal administratif a donc interdit les parloirs hygiaphones à Caen. Et donc, il ne l'applique pas. C'est le commentaire. C'est ce qu'elle expliquait très bien. On lui souhaite vraiment beaucoup beaucoup de force à elle ainsi qu'à Pascal. Et puis en tout cas, on continuera à vous tenir informés.
N'hésitez pas aussi à continuer à témoigner là sur ce qui se passe dans les parloirs là. Enfin, comme on disait encore, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Comme là, le major, il le dit très bien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils le font d'autres encore plus maintenant que. Il y a des nouvelles règles qu'ils appliquent comme ils veulent, donc voilà, n'hésitez pas à témoigner pour qu'on relaie aussi ici ce qui se passe un peu partout. Quoi.
C'est hyper important. On a quelqu'un au téléphone, salut.
Bonjour.
Tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien.
On va peut-être te laisser te présenter.
Oui, je m'appelle Amandine, je suis gilet jaune et j'appartiens au collectif Les Réfractaires du 80. C'est un collectif de gilets jaunes qui s'est créé sur Amiens et qui rayonne sur le département, sur la Somme. Et sinon, je suis syndiquée à Solidaire.
Et donc, il t'est arrivé quelques petites emmerdes qui ne sont pas des petites emmerdes. Enfin, même si quand on s'était eu au téléphone, tu parlais ça comme étant le degré zéro, mais c'est quand même un degré zéro qui marque. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en fait? Tu es un peu dans le viseur des keufs depuis un petit moment?
Oui, c'est ça. En fait, le 9 janvier, je participais à une manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites. On était quelques gilets jaunes à avoir rejoint cette manifestation. Et j'ai été arrêtée 3 heures après la manifestation par la BAC, alors que je rentrais chez moi. Pour deux chefs d'inculpation qui étaient assez éloignés de ce qui s'était passé sur la manifestation, c'est-à-dire ils m'ont accusé d'attroupement, donc ça veut dire non-dispersion après sommation et dissimulation du visage. J'ai fait 21 heures de garde à vue.
Ouais.
Et je parlais en fait du degré, j'appelais ça le degré quand on s'était parlé, le degré zéro de la répression. C'est pas du tout pour faire des échelles, mais c'est pour dire qu'en fait, la répression, elle s'exerce à plein de niveaux différents, ça c'est pas nouveau, mais à partir du moment où on met un pied dans la rue, en fait, ne serait-ce que les violences autour de nous, les menaces, le gazage, les lancements de grenades, les tirs de LBD, etc., c'est déjà traumatisant pour plein de personnes. Et je ne parle même pas des blessés directement, mais les personnes qui vivent ces tensions. Et ensuite, il y a la garde à vue, et puis ensuite, il y a des choses beaucoup plus tragiques. Mais en fait, la chaîne, elle est complète. À partir du moment où on va dans la rue jusqu'à des choses vraiment dramatiques qui détruisent des vies, en fait.
Ouais, parce que ce que tu disais aussi, que vous en parliez aussi pas mal dans votre groupe, c'est que cette violence, cette répression policière qu'il y a pendant les manifs, tu parlais des rêves qui commencent à être violents, où vous faisiez des rêves comme quoi il y avait les policiers qui vous attaquaient, ou ce genre de choses.
Ouais.
Et que ça prenait aussi une forme. Qui est une autre forme, qui est vraiment une violence aussi psychologique, quoi.
Oui, c'est ça, il y a des traumatismes, ce qu'on appelle les chocs post-traumatiques ou ce genre de traumatisme. En fait, si on vit des manifestations très violentes, enfin, nous, celle qui nous avait beaucoup marqué avec un camarade gilet jaune, c'est le 1er mai l'année dernière à Paris. Et c'est vrai que pendant plusieurs semaines, on avait des rêves, on nous tirait dessus au LBD, etc. Alors, enfin, moi, je rêvais de ça, je ne sais pas ce que mon camarade rêvait, mais... Et ensuite, on a eu du mal à retourner en manifestation. On y est retourné, mais on mettait quelques minutes à se calmer, en fait, avant de pouvoir être à peu près bien dans la manifestation. Et voilà, ça crée ce genre de traumatisme. Ouais.
Et c'est un truc dont on parle quand même assez rarement, de ces traumatismes-là et tout, alors qu'en fait, on sait que c'est l'objectif des keufs. Il y avait une phrase qu'on avait mise dans le numéro 50 qui disait « En éborgner un pour qu'il y en ait 1000 qui viennent plus » ou je ne sais plus quelle était la formule exacte. En blesser un pour en terroriser 1000, c'était ça la formule. Et là, c'est clairement ça, quoi.
Oui, et puis les blessures là, qu'on a vues pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est les éborgnés, les mains arrachées, les pieds arrachés. Et effectivement, enfin, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en a plein qui sont partis parce que c'est terrorisant. Et que la peur, elle nous gagne et qu'on a, pour beaucoup, et je leur jette vraiment pas la pierre, mais beaucoup ont du mal à retourner sur certaines manifestations parce que c'est trop violent.
Ben oui.
Et qu'il y a trop de blessures graves et il y a même eu des morts. Voilà, donc c'est... Oui, ça marche, en fait, ça marche. Et après, il y a d'autres formes de répression, et la garde à vue... Moi, c'était ma première garde à vue, j'ai trouvé ça vraiment dur, et on n'est jamais assez préparé à la garde à vue, même si parfois, on nous distribue des papiers, ou en nous disant, voilà, vous avez le droit d'avoir un avocat, un médecin, vous pouvez garder le silence pendant l'interrogatoire, mais les conditions de garde à vue... Même si on nous a dit, on a entendu que c'était dur, ou qu'on est allé soutenir des camarades avant qui malheureusement ont déjà fait de la garde à vue, on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir psychologiquement et nerveusement. Et en fait, on se dégrade très vite. Enfin, moi, au bout de 4-5 heures de garde à vue, j'ai commencé à vraiment craquer nerveusement, à pleurer. Je savais plus. Enfin voilà, c'était dur. C'était dur.
Bah, c'est comme ça qu'ils l'utilisent, hein, la garde à vue, de toute façon, pour faire parler les gens. C'est le moyen de pression et voilà. Et on peut pas reprocher à quelqu'un qui va causer et tout. Voilà. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est ce que vivent des gens quotidiennement, autre part que dans les manifestations et tout. Et c'est important de décrire tout ça, quoi.
C'est important d'en parler, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément il y a des préparations, il y a des formations avant dans des collectifs anti-répression, et c'est important de pouvoir les suivre ou de se renseigner. Et moi, j'avais la chance d'avoir tous mes camarades, ils se sont rassemblés devant le commissariat très vite après mon interpellation. Mmh. Et la cellule dans laquelle j'étais, je les entendais, en fait, et ça m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Mais il y avait 14 gars ce soir-là qui étaient en garde à vue, moi j'étais la seule femme. Et il n'y avait personne pour eux devant le commissariat. Et je les ai entendus, comme eux, ils m'ont entendu, je les ai entendus pleurer toute la nuit dans leur cellule, parce que eux, ça faisait 48 heures ou presque 72 heures qu'ils étaient là. Mmh. Et à l'extérieur, il n'y avait que mes camarades, parce que j'appartiens à un collectif, parce que, voilà, et je pense à toutes ces personnes, en fait, qui sont complètement seules dans leur cellule pendant une, deux, trois nuits avant de peut-être être détenues quelque part, en fait.
Ouais. Et puis on disait, enfin voilà, ça fait partie du truc aussi où qu'on dit assez fréquemment, ou après derrière, c'est quand même vraiment mieux de refuser la comparution immédiate. Mais ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on dit assez fréquemment qu'il faut refuser cette comparution immédiate, c'est qu'en fait tu peux pas quand t'as passé 48 heures en gave ou t'as quasiment pas dormi ou autre te défendre correctement ou en tout cas avoir une parole, quoi.
Mais ouais, et c'est important, et en même temps c'est dur à tenir, parce que moi j'ai eu mon interrogatoire au bout de 19 ou 20 heures de garde à vue, et je sais, j'ai eu ces papiers entre les mains, j'ai entendu des gens me le dire et tout, qu'il fallait pas parler par exemple pendant l'interrogatoire, qu'il valait mieux ne pas parler au risque de dire un truc qui peut être mal interprété ou détourné par la suite s'il y a un procès ou quoi. Et moi j'ai répondu à toutes les questions, parce que je sais pas, j'étais dans un état émotionnel qui était pas le bon, et je me suis dit, J'ai rien à me reprocher, je vois pas pourquoi je répondrais pas aux questions, mais même quand on a rien à se reprocher, tout peut être retourné contre nous ensuite. Donc, et j'ai pas pu tenir ce silence-là, alors que j'y avais le droit. Donc en fait, même de refuser la comparution immédiate, c'est pas si simple que ça.
Bah bien sûr.
Faut vraiment s'y préparer, parce qu'on veut juste se casser de là, on veut juste sortir en fait. Enfin...
Ouais, et il joue sur ce chantage-là de dire allez-y en compas, parce que sinon ça peut se prolonger encore et compagnie, vu que la garde
à vue c'est insupportable. Ouais, ça par contre c'est des mensonges la plupart du temps, et d'ailleurs ils en balancent pas mal des mensonges pendant les gaves, du genre t'inquiète, tu vas bientôt sortir, ou quand les camarades ils posent des questions dehors pour savoir s'il y a d'autres personnes que, qui ont été interpellées, ils disent non, mais il n'y a personne Damien, puis quelques temps après tu découvres qu'il y en avait quatre. Enfin, c'était pas le cas quand j'y étais moi, mais on a déjà eu, enfin, ils racontent des trucs qui sont faux, quoi.
Ouais, bah, de toute façon, c'est eux qui sont qui détiennent les informations et tout ça, quoi. Et c'est un truc souvent. C'est ça. Et souvent, enfin, on peut voir dans certains milieux militants gueuler à fond contre des gens qui parlent en manif et tout. Et je pense que en gave. Et je pense que c'est important de rappeler, quand t'es à l'intérieur, tu fais ce que tu peux, Et faut bien évidemment essayer de ne pas parler. Mais tu fais ce que tu peux et surtout, et parce que tu sais jamais comment ça va être réutilisé après, mais jamais reprocher à des gens de parler. Enfin, je pense que c'est assez important.
Ouais, par contre, il faut leur expliquer, il faut pouvoir informer les gens par rapport à ça. Et c'est vraiment pas juste de. Parfois, c'est déjà bien hein, les papiers qui sont distribués en manif et tout, mais si après. Quelqu'un qui a déjà fait de la gaffe peut témoigner en expliquant à quelqu'un, ben voilà, moi j'ai parlé, mais vraiment je t'assure si tu peux. Mais il faut, voilà, c'est pas. Tout ça, on le sait, et puis après, c'est pas si évident que ça. C'est
clair. Et donc là, tu as eu ton procès donc, pour attroupement, donc ça s'est déroulé hier. Tu peux nous décrire un peu le dispositif qu'ils ont mis en place?
Ouais. Oui, je suis sortie de ma garde à vue avec un procès le procès a eu lieu hier. Déjà, ce qui était surprenant, c'est que la veille, il y a un autre camarade qui a été jugé, Jules. On n'a pas le résultat parce que ça a été reporté au 1er juillet, donc on doit attendre encore. Et moi, en fait, hier, il y avait un important dispositif policier qui était arrivé à l'heure du rassemblement devant le tribunal. On avait 10h30 devant le tribunal pour les camarades et tout ça. Et ils sont arrivés à midi et ils étaient à peu près entre 10 et 12, quoi, CRS, donc c'est quand même important pour une personne, et ça n'arrive jamais que les CRS se mettent devant la grille du tribunal en bas des grandes marches avant de monter, et qui triaient l'entrée, et qui en fait nous ont surveillés tout le long, et ils sont repartis quand moi je suis sortie de mon procès. Donc déjà ça, bon, c'est quand même assez particulier, en plus pour les faits, pour les chefs d'inculpation que j'ai moi. Et puis ensuite, après, ce qui m'a frappée, moi, c'était donc la première fois que j'étais moi jugée. Après, j'ai assisté à d'autres procès de camarades. C'est tout de suite, en fait, ce manque de neutralité et la connivence énorme. Et ça, on le sait déjà. Hein, moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais la connivence entre la justice et la police. On sait qu'ils ont besoin d'eux, on sait qu'ils travaillent avec eux, mais là, en fait, c'est flagrant. C'est que le parti pris, il est total, il n'y a aucune neutralité, il n'y a aucune remise en question à un moment ou à un autre des témoignages de la police ou des PV qui sont rédigés dans le dossier qui me concernait. Et ça, c'est vraiment frappant. Et d'entrée de jeu, moi, le juge, il m'a attaqué, en fait, tout de suite. Et une de ses premières questions après avoir lu mon interrogatoire, c'est de me dire, mais en fait, madame, est-ce que vous considérez que la police ment ? Donc, question piège par excellence. Et en plus, il attaque là-dessus. Hein.
Ouais. Parce que, bon, la police a menti, et surtout, ce qui est dingue, tu me disais tout à l'heure au téléphone, c'est que, donc, par contre, quand c'est, donc, les témoignages de keuf, là, par contre, il n'y a pas de souci, ils sont très bien, ils sont très beaux, et les juges les prennent en compte normalement, mais par contre, toi, tous les témoignages que tu avais ramenés des camarades et tout ça, qui expliquaient qu'en fait, les sommations n'avaient pas été faites, et que donc, tu ne pouvais pas savoir que c'était la fin du rassemblement, elle, par contre, ça, par contre, on a balayé et puis on a expliqué que tu leur avais fait dire ce qu'ils devaient dire, quoi.
Oui, vraiment un mépris par rapport à l'écriture, en fait, parce que tout le monde n'est pas égal face à l'écriture. Voilà, les attestations, elles ont été rédigées comme elles ont été rédigées. Après, évidemment qu'on a discuté entre camarades, on est dans un collectif. Moi, j'étais la seule personne arrêtée sur cette manifestation, donc ça montre à quel point elle était violente et terrible, etc. Et ils étaient choqués, en plus, ils ne s'attendaient pas à ce que je me fasse arrêter, surtout 3 heures après, en fait, par la BAC. Et du coup, on a parlé de tout ça, et on a parlé des chefs d'inculpation. Donc, évidemment, ils étaient dans la rue avec moi au moment où il y a eu soi-disant des sommations. ils ont témoigné comme quoi il n'y en avait pas. Mais ça, leur phrase n'allait pas, ça leur convenait pas, et puis soi-disant, je leur avais tout dicté, mais en même temps, et quand bien même si j'en avais aidé quelques-uns, voilà, on en a discuté ensemble, je vois pas le problème. Donc oui, ils ont tout de suite attaqué, ils les ont pas pris en compte pratiquement, et ils m'ont menacé par rapport à mes camarades qui ont écrit, en disant, vous savez de quoi c'est puni, le faux témoignage, etc. Donc encore un moyen de pression aussi par rapport à ça.
Ouais, alors que par contre, le témoignage des keufs, c'est pas un faux témoignage, donc on va pas écrire...
La police fait bien son travail, les sommations, elles marchent toujours, ils les font toujours, et elles sont faites pour que l'ensemble du cortège, quelle que soit la taille du cortège, l'entende. Et puis surtout de considérer que la police ment ou l'insinuer, c'est très grave parce que des policiers qui mentent, vous savez, madame, ils vont en cour d'assises et ils sont jugés pour ça. Voilà, ouais. Voilà le genre de discours qui est tenu.
Et puis aussi, la juge qui normalement doit être neutre, mais on sait très bien comment ça se passe, elle s'est permis quand même aussi de porter atteinte à toi, quoi. Enfin, elle s'est permis de remettre en cause un certain nombre de trucs et tout, qui est comme d'hab. Enfin, les juges qui humilient.
Oui, c'est ça. Ils ont une attitude de mépris, alors mépris de classe, voilà, ça c'est le truc qui surplombe, mais aussi de. Oui, une totale méconnaissance de ce que peut être une manifestation, la lutte et tout, mais voilà, eux, ils savent que si la police fait son travail, elle a tous les droits, et que de toute façon, nous, on est toujours suspects, ou quoi qu'on ait fait.
Ok. Mais est-ce que tu veux rajouter un petit truc ?
Je voudrais juste rappeler, parce qu'en fait, à l'occasion des deux procès, on avait fait une émission de radio là, le dimanche dernier, et puis surtout, on avait annoncé la marche qu'il va y avoir demain à Paris à 13h12, rendez-vous place de la République, pour Lamine Dieng. Et cette marche-là va rejoindre aussi la marche des solidarités. Donc je crois qu'on se retrouve au Père Lachaise à la fin. Et voilà, donc c'est important de continuer à soutenir les familles qui se battent depuis des années face aux violences policières et à l'impunité totale.
Grave. Bah écoute, tu spoiles un peu notre fin d'émission, mais c'est très bien. Et de toute façon, mieux vaut le dire deux fois plutôt qu'une.
Voilà.
Donc c'est très cool. Bah merci encore de ton coup de fil, plein de force. Vu ce qu'ils t'ont foutu et tout ça, on pense pas que le PROC va faire appel, mais donc en tout cas, on croise les deux doigts à ce niveau-là, même si voilà. Et en tout cas, lâchez pas la faire, et puis de pas hésiter, en tout cas on est là pour donner la parole aux gens qui subissent tout ça, donc voilà.
Merci beaucoup, et puis du courage à tous ceux qui subissent l'enfermement, la répression, tout ça.
C'est cool, j'espère qu'ils t'entendent à l'intérieur. Merci encore, et puis on se dit à bientôt. À plus. On va donc passer un petit coup de musique avant de avoir un autre coup de fil. Go, 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 just go. Go, 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 go. Whatever it takes, rid this dictator. POTUS my tail, ask the beta. Prime time, primo, rhyme time, crime. Like no other in this lifetime. White House killer, dead in lifelines. Broke this joke out, or die trying. Unprecedented, demented, mini presidented. Nazi Gestapo, dictator, defendant. It's not what you think, it's what you follow. Run for them jewels, drink from that bottle. Another 4 years, gonna gut your hollow. Gun it out, dried up, broken, can't borrow. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Mister, I am the law and you are not. In fact, I'm God, I got a lot. Mister, these United Breaks take over, come over. Orange hair, fear the comb over. Here's another scare, keep them hands in the air. Better not breathe, you dare not dare. Don't say nothing, don't think nothing. Make America great again, the middle just love it. When you wanna talk, walk y'all straight to them ovens. Human beings of color, yeah, we be suffering. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the
Union. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Vote for hell, real generals now, not some USFL, not a fucking game, I did not mention his name, Operation 45, yeah it's the same thing, sounds like Berlin burning, same thing, history's a mystery, if y'all ain't learning, in this clown show, for real estate bozo, Nazi cult 45, Gestapo, State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me, State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me.
Vous êtes de retour sur l'Envolée, fréquence Paris Pluriel 106.3. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ainsi qu'au 07 52 40 22 48 hors des émissions. Et pour nous écrire, on vous rappelle l'Envolée-FPP 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Et on est aussi contactable sur les réseaux sociaux et autres, donc Insta, Twitter, L'Envolée et Facebook et l'envolée.net sur le site. Voilà, donc vous pouvez nous joindre. On a actuellement un second coup de fil. Allô ?
Oui, salut.
Ça va ?
Super.
Je vais peut-être te laisser te présenter.
Allons-y, Stéphane, j'habite dans la Drôme, du côté de Saillant, voilà, où je me trouve, et on a un grand beau soleil.
Bah, vous avez de la chance, parce qu'ici, c'est plutôt grisâtre. Tu nous appelles, en fait, parce que il y a eu ton appel il y a une dizaine de jours pour un procès, mais on va peut-être revenir à ce qui s'est passé. Donc, toi, tu as participé dès le début du mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points dans les premiers actes. Tu as mis quelques temps avant d'y aller, dans mes souvenirs ?
Ouais, c'est ça. J'étais, parce que j'étais en Guyane aussi pour... Je fais un peu de vidéo, donc j'étais là-bas pour faire un reportage, notamment pour Reporter, et sur un projet de la Montagne d'Or. Et donc je suis revenu et je regardais ça un peu de, avec distance au début, en me questionnant sur ce mouvement, ses premières motivations, etc. Et puis j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de gens qui se levaient. Je suis revenu, j'ai vu des gens au rond-point, j'ai vu des gilets jaunes sur les pare-brises, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, assez fort, assez massif, en tout cas nous dans la vallée, Valence. Et puis la vallée de la Drôme, et c'est vrai que je me souviens du retour de l'aéroport et de la gare, là où j'ai vu tous ces gens au rond-point, je me suis dit waouh. Enfin moi, ça fait un moment que je suis assez militant sur les ZAD, les Nuits Debout, etc. Et c'est vrai que bon, il y a eu des choses qui se sont passées, mais là on sentait quelque chose d'assez fort avec des gens qu'on n'avait jamais vus. Enfin voilà, ça m'intéressait beaucoup tout ça, à la fois en tant qu'habitant, en tant que citoyen on va dire, et puis en tant qu'aussi quelque part reporter qui essaie de faire des choses avec sa caméra. Et donc j'ai eu, après ce temps passé, j'ai franchi le cap et je suis allé d'abord au rond-point de Cré, qui était un rond-point qui était très vivant, qui vit encore un peu d'ailleurs, hein. Il y a encore là en ce moment quelques faux après-midi des gens qui se retrouvent là-bas, voilà, j'y suis allé, et puis j'ai mis un orteil, un pied, deux pieds, et puis je me suis retrouvé le 8 décembre à aller à un rassemblement proposé sur un centre commercial pour aller sensibiliser un petit peu les gens qui allaient dans ces centres commerciaux, à la fois sur les sur ce fonctionnement de ces centres, ce qu'ils impliquaient au niveau social, écologique, etc., sensibiliser à tout ça. Et ça je me suis retrouvé là-dedans, donc j'y suis allé, on s'est retrouvé on était 100-150 à y aller, à ce gros, hein, comme on peut voir dans toutes les villes, aux entrées de villes, gros centres commerciaux avec des grosses chaînes, etc. Et voilà, je me retrouve là sur ce rassemblement du 8 décembre à partir de 9h. Toute la matinée se passe bien. Il y a du tractage, un peu de blocage aussi. Mais ça se passe, les forces de l'ordre sont présentes, mais ça se passe. Et puis à midi, ça commence à se tendre avec un ordre qui nous est donné de partir. Et puis collectivement, on décide de pas partir parce qu'on se trouvait légitime à être là et en nombre. Et ça se passait bien. Et donc, il y a un premier face-à-face avec les forces de l'ordre qui se passe, avec très rapidement deux blessés côté gilets jaunes, on va dire. Et donc, ça s'arrête, il y a les pompiers qui viennent, et il y a un statu quo un peu pendant une heure et demie, là, sur ce centre commercial. Mmh. Et puis, arrive pas mal de renforts du côté des forces de l'ordre, et donc, du coup, il est décidé collectivement de quitter les lieux, et notamment pour rejoindre la marche pour le climat qui avait lieu, du coup, dans l'après-midi, et il y avait une marche sur Valence. Donc, on décide collectivement de partir. À partir de là, tout va très vite. On est un peu éparpillé, moi je suis avec un groupe, on part vers la voiture, et puis il y a un attroupement qui se forme, des bruits qui surgissent, et en fait une bagarre qui éclate sur le parking, en fait, et du coup moi je décide à ce moment-là, je pense qu'on calcule plus grand-chose, d'y aller, et très rapidement je visualise une personne qui donne des coups à des gilets jaunes. Mmh. Et du coup j'arrive sur le lieu, cette personne, je lui donne un coup de pied, je lui en donne deux autres.
Ouais, tu protèges tes potes, quoi.
C'est ça, moi c'était l'idée de
un la peu base.
Moi je sais pas me battre, hein, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais trop fait, enfin bref, c'était vraiment de l'instinct, enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose, voilà, et puis suite à ces trois coups de pied, je vois une autre personne qui sort une arme et qui pointe, et là je prends conscience quand ces personnes, c'était des policiers en civil, quoi.
Ouais. Qui s'étaient ni présentés, qui n'avaient pas de brassard, ni rien du tout.
Alors, ils avaient des brassards, sauf que ces brassards, vu qu'ils étaient... En fait, ces deux policiers, dont le directeur départemental de la police de la Drôme, ont voulu faire une arrestation qui a mal tourné. Donc, il y a un groupe qui a voulu extraire la personne qui s'est fait arrêter. Et moi, je suis arrivé un petit peu en cours de tout ça, quoi. Et donc, leur brassard, il avait complètement bougé. Pour l'un, celui à qui j'ai fait face, il était positionné au dos de son coude, dans le pli. Et pour l'autre, dont j'ai vu le pistolet, il était au bas de son bras. Donc ça, c'est après coup, hein, que oui. Moi j'ai vu. Et j'ai notamment vu ça parce que il y a une vidéo, donc des caméras de surveillance du parking qui a enregistré la scène. Et donc ça, moi je l'ai revu quand j'étais emmené, quand j'étais en garde à vue, j'ai vu la vidéo, et c'est là que j'ai vu effectivement qu'il y avait une couleur orange qui apparaissait de ci, de là sur la vidéo. Ouais. Et que voilà, après je le savais, hein, quand j'ai vu l'arme, je le savais, donc avec le groupe, là du coup il y a une espèce de fuite qui se met en place. Moi, je pars sur le parking et je pars en voiture et je me prends à la marche pour le climat l'après-midi à Valence. Sur place, j'étais assez, assez choqué, hein, parce que c'était une scène qui était assez, assez violente. Puis de se faire pointer quelque part avec une arme, c'est pas rien. Et c'est quelque chose qui m'a chamboulé, quoi. Et après, je me souviens, je retrouve des copains qui me disent « Steph, qu'est-ce qui se passe ?» Effectivement, j'étais encore là-bas, je savais pas quoi faire, enfin bref. Mais bon, en tout cas, j'étais sur cette marche, et puis en fait, sur la marche, je me suis fait attraper. Sur la marche, ils m'ont repéré, en fait, hein. Ils cherchaient les personnes, quelques personnes qui avaient été là le matin. Et donc, je me fais attraper, je me fais castagner, puisqu'ils m'arrêtent et ils m'ont ouvert deux fois le crâne. Hein. Dans la voiture, je me prends des coups et je me retrouve en garde à vue. La tête en sang, dans une cellule crasseuse, dégueulasse. Moi, j'avais jamais fait de garde à vue et à négocier pour pouvoir aller à l'hôpital et pour qu'on me recouse rapidement, vu la crasse dans la cellule.
Alors qu'il faut rappeler que c'est un droit de voir un médecin. Et donc, et d'ailleurs, enfin, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi de le demander, parce que ça permet de voir quelqu'un d'extérieur. Voilà, et c'est même psychologiquement et tout ça, c'est toujours quelque chose à demander, même si il y a rien qui, entre guillemets, mériterait de voir un médecin. C'est toujours bien, puisque ça permet de voir quelque chose d'autre et tout ça. Et voilà, et ça compte dans les délais de garde à vue.
Après, ah oui, complètement. Moi, c'était un moment hyper important. Non seulement, effectivement, bon, moi, en l'occurrence, j'avais une plaie, donc c'était important médicalement, on va dire. C'était important parce que aussi, le médecin m'a donné des choses pour dormir. Bon, je suis un gros dormeur, en plus, j'étais fatigué, donc j'ai pas eu de soucis, mais ça peut aider aussi pour ça. Et effectivement, d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Moi, il se trouve que je suis tombé sur un médecin qui était, qui j'ai pu discuter comme il faut, qui m'a dit des choses qui m'ont posé. Effectivement, dans ces moments-là, on est un peu chamboulé, comme je disais. Et voilà, ça fait du bien. Effectivement, c'est vraiment important. Dans les droits qu'on a en garde à vue, ça fait partie des choses qui, je pense, effectivement, dans tous les cas, c'est intéressant de demander ça et de pouvoir voir un médecin, ouais, effectivement.
Et donc là, ils te font passer en comparution immédiate.
Ouais. Donc c'est ça. Donc 24 heures de garde à vue prolongée. Moi en garde à vue, du coup, j'ai reconnu. J'ai parlé malgré le fait que j'avais quand même quelques petites notions et que c'était plutôt conseillé, on va dire, de pas parler dans ces conditions-là, parce qu'effectivement on est dans un état psychologique nouveau qu'on connaît pas forcément, on se connaît pas dans ces moments-là, mais ils font ça bien et puis moi je trouvais que j'étais dans mon droit, que ce que j'avais fait c'était compréhensible, que j'avais pas reconnu que c'était des policiers et tout, et dans l'idée de sortir aussi de cette garde à vue traceuse. Voilà, c'est stratégique pour eux et je suis un peu rentré dedans. Bon, voilà. Et effectivement, le lundi, on est déféré au tribunal. On voit l'avocat commis d'office, du coup, 20 minutes avant la comparution immédiate. Et par contre, là, moi, c'était hors de question de passer en comparution immédiate. On était quatre, en fait. On a été quatre à être arrêtés. Et parmi les quatre, on est deux à avoir demandé le report et deux qui voulaient passer tout de suite. Mais comme c'était une affaire liée, donc c'était, s'il y en avait un qui le demandait, en fait, c'était reporté. Et donc, effectivement, le lundi après-midi, on se retrouve au tribunal avec un huis clos, puisque les proches n'ont pas pu rentrer.
Même à l'époque.
Comment ?
Même à l'époque.
Oui, c'était quand même un moment décembre, c'était les dates, 1er décembre, 8 décembre, c'était quand même tendu, c'était quand même waouh. Et donc au tribunal, les policiers devant, en force, en nombre, etc. Donc c'était un moment un peu. Et donc du coup, avec l'avocat, à ce moment-là, les copains dehors avaient fait un super taf pour amener les garanties de représentativité sur ma situation familiale, professionnelle, etc. Donc ils ont fait un super taf. Il y avait tout ce qu'il fallait pour tous les quatre, en fait. On avait tous des situations, soit étudiants, soit salariés, avec une famille, avec une maison, etc. Donc, a priori, l'avocat, il était confiant, quoi. Mm-hmm. Et puis, en fait, non, pas du tout. Ils nous ont envoyés en détention préventive. Et ce qui m'a beaucoup choqué, moi, dans l'histoire, c'était surtout Tom, là, qui a fait appel aussi, qui, lui, était étudiant en cordiste sur 10. Qui avait un examen qui allait tomber 4-5 jours après, et que si on l'envoyait en détention, il pouvait pas passer son examen, et il s'était foiré pour lui, quoi. Et le juge a décidé de l'envoyer en prison, donc non.
Après, je pense que c'est aussi important de rappeler que, enfin, ça c'est clairement aussi, enfin, on doit envoyer personne en détention provisoire, quoi qu'il se passe, mais que c'est aussi l'un des arguments qu'ils utilisent de dissociation comme ça, où il y a les gentilles personnes, enfin, tu vois, les bons étudiants et autres, le SDF ou le migrant ou autre qui n'a pas de maison, et c'est aussi des arguments qu'ils utilisent pour condamner des situations sociales aussi, et donc je pense que c'est important de rappeler que c'est pour tout le monde qu'il ne doit pas y avoir de détention provisoire, et que ça ait un impact matériel fort très rapidement et autre. Enfin, voilà, enfin, l'enfermement reste inacceptable pour qui que ce soit. Et de toute façon, c'est toujours un moyen de pression, quoi. Enfin, voilà. C'est juste,
c'est juste
pour dire que ça légitime pas plus le fait d'enfermer des personnes qui n'ont pas de logement ou autre, ou qui sont moins insérées socialement. Voilà.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est sûr que sur en découvrant tout ça et en découvrant la, parce qu'on se connaissait pas hein, tous les quatre, en découvrant la situation du copain qui était là, mais quand il a pris la décision, il était effondré, il était, enfin bon bref, c'était.
Bien sûr. Mais
c'est clair. Mais après, voilà, on l'a vu aussi à l'appel. Moi, ma situation professionnelle a changé. Du coup, à l'époque, j'étais demandeur d'emploi, mais en début, on va dire de. D'intermittence et d'essayer d'avoir des cachets, mais bon, c'était le tout début, quoi, en fait. J'étais, concrètement, j'étais demandeur d'emploi. Et donc là, en appel, j'ai le statut d'intermittent maintenant, etc. Et ça joue, et c'est pas normal, on est d'accord, c'est pas normal de. Qu'est-ce qui change, en fait, sur toi, ce que t'es, sur qui t'es, sur ce que tu défends, etc. Que ça change que dalle, mais bon, voilà. En tout cas, la justice actuelle. Oui, la situation, le fait d'avoir une situation professionnelle, et ben c'est quelque chose qui rentre en compte. C'est pas normal du tout. On est bien d'accord. Hein.
Et sur cet appel, donc c'est quand même un appel qui a eu lieu donc pendant le confinement de la police, le confinement de la justice, parce que ils ont laissé rentrer pas grand monde.
Ah bah oui, c'est une personne. Ils ont laissé rentrer hein, puisque c'est juste ma compagne. Moi, il y a mon père qui habite dans le Nord, qui avait fait le déplacement. Pas mal de potes, il y avait un collectif de soutien, des gens, etc., des proches. Et même au début, on est arrivé, c'était niette, personne. Et il a fallu que les avocats et avocates aillent négocier avec la juge pour qu'elle finisse au final par accepter que ma compagne puisse rentrer. Mais mon père a dû rester dehors, donc. Et alors pendant ce temps-là, la salle était complètement vide. C'était des grands couloirs. Enfin, je veux dire au niveau conditions sanitaires, si on veut rentrer là-dedans. Enfin, hein, en plus, bref, c'est un autre débat. Mais il y avait complètement la possibilité, uniquement pour moi, vu la configuration du lieu de ce tribunal énorme, de faire rentrer des gens et de les mettre à un siège sur deux ou je ne sais quoi, comme on fait partout ailleurs. Enfin, je veux dire,
mais c'est juste qu'ils sont très contents que cette justice, elle se passe à l'abri des regards. Voilà. Et donc, ils en sont ravis et donc ils utilisent ce qu'ils aimeraient faire habituellement. Voilà. Et donc, c'est important de rappeler d'ailleurs qu'il faut aller au tribunal, que ce soit pour les camarades, pour les soutenir, mais aussi montrer aux juges et témoigner sur les comparutions immédiates et tout ça. Voilà, c'est l'occasion de le rappeler. Et l'appel, t'attends la décision là pour l'instant. Mais globalement, les keufs, ils ont quand même reconnu 2-3 trucs.
Ouais. Alors, je voudrais juste
revenir sur
ce que tu as dit. Alors, par rapport au tribunal, tu as raison, c'est sur ce que tu as dit, mais c'est aussi, je pense, d'avoir des gens, ça peut aussi, alors ça dépend des gens, mais te donner une force, une énergie, te rassurer, de savoir que derrière toi, il y a du monde. Donc, c'est aussi toi, ton état d'esprit, comment tu es, comment tu ta confiance en toi, etc. Ça joue aussi là-dessus. Donc, c'est aussi ce point-là que je voulais souligner. Bon, moi, en l'occurrence, je l'appréhendais un peu, mais au final, il y a quand même ma compagne qui était là, mais ça a été. Mais globalement, je pense que Tom, par exemple, c'était beaucoup plus dur pour lui d'être seul là. Enfin, tout seul, on était à quatre, et ça a été chouette parce qu'on a vraiment fait une défense collective avec Raphaël Kemp et Alice Becker, nos avocats, avocates. Et du coup, on a quand même, ça c'était chouette, on était quatre, quoi. On n'était pas un plus un plus un, on était quatre. Donc ça c'était chouette. Et j'avais un autre truc que je voulais dire, mais oui, par rapport au soutien, je pense que c'est aussi important, je pense, que ce soit fait en coordination avec les gens qui sont au procès, et que des fois ça peut arriver, nous on l'a vu hein, sur Valence, des gens qui ne souhaitent pas, et je pense que c'est important de l'entendre.
Ah bah, bien sûr.
Après chacun prend sa décision, mais il y a quelque chose à entendre aussi, quoi. Je pense que la plupart des gens, effectivement, ça fait du bien. Mais voilà, il y a ce point-là à prendre en compte de mon point de vue.
Grave. Non, mais ça, c'est sûr qu'il ne faut pas faire des trucs sans l'accord des personnes qui sont à l'intérieur du box. Ouais. Et donc, les keufs, ils ont reconnu qu'ils n'étaient absolument pas reconnaissables.
Alors, en fait, il y avait trois éléments qui ont été mis en avant sur leur reconnaissance. Il y avait le brassard, il y avait le fait qu'ils se soient identifiés oralement, et il y avait l'arme. En fait, on a chacun de ces éléments séparément. Le brassard, ils ont reconnu effectivement sur présentation de moment de la vidéo précis ou même sur le global que ils ont reconnu que là à ces moments-là, il y avait plein de moments où on les reconnaissait pas, où on voyait pas du tout le brassard, où c'était pas visible. Donc ça, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu potentiellement les gens qui étaient présents pouvaient ne pas savoir que c'était des policiers avec leur brassard. Bon, ça c'était dit. Au niveau de la reconnaissance orale et de l'identification, ils ont reconnu qu'en fait, au début de leur intervention, quand ils ont voulu faire l'arrestation, ils se sont identifiés, mais qu'après, vu ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une réaction collective pour libérer cette personne qui était arrêtée, et c'est vrai qu'ils ont été pris à... Enfin, je veux dire, ils étaient dans une bagarre, quoi. Ouais. Et donc, ils ne se sont pas réidentifiés, ça, ils l'ont dit. Et au niveau de l'arme, en fait, l'arme qui était pour un moment, moi, la personne que j'avais en face de moi, effectivement, elle avait une arme sur sa ceinture, là. Mais sauf qu'il était habillé tout en noir, même avec des gants noirs.
Ouais, donc
Enfin, c'est aussi, ça va tellement... Moi, sur, en fait, cette scène, entre le moment où je pars, j'atteins la scène et je repars, il se passe 18 secondes, quoi. C'est quelque chose qui est hyper rapide, en fait. Et donc, dans ce laps de temps, avec la... c'était chaotique, c'était confus, et en plus qu'il soit tout noir, et ben, ça amène le fait que effectivement c'était pas forcément reconnaissable. Donc sur ces trois points, il y a eu des éléments effectivement qui ont été dits, qui ont été reconnus, et je trouve qu'ils ont été corrects là-dessus, parce que franchement ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, hein, mais en tout cas la personne que j'ai eu en face de moi et qui a été interrogé du coup par mon avocat sur tout ça, a reconnu ces choses-là. Donc c'est vrai que ça a été des éléments quand même importants. Ils ont aussi reconnu d'eux-mêmes que, sans qu'on les titille trop, qu'ils ont été invectivés, mais que les invectives ne faisaient pas état mention de leur fonction de policier, c'est-à-dire qu'il y a eu des invectives, mais jamais c'était sale flic ou je ne sais quoi. C'était des choses qui ont été dites. Donc ça aussi, c'est un élément important qui a été dit. Donc, effectivement, c'était plutôt là-dessus positif pour nous.
Grave. Donc va y avoir un rendu. Je ne sais pas si je me souviens plus. Je ne crois pas qu'on ait dit en fait qu'en première instance, tu avais eu un an ferme et 6 mois avec sursis. Enfin, donc 18 mois dont 2 fermes. On attend. Voilà comment ça va se passer. Puis surtout, tu avais... Il y avait eu 3 ans d'interdiction de manifester.
C'est ça, 18 mois dans 12 fermes et 3 ans d'interdiction de manifester pour moi et pour les 4. Moi, j'ai pris la peine la plus forte. J'ai été présenté au premier procès par le procureur comme un bouffeur de flics. C'était assez pathétique. Et là, effectivement, le rendu le 2 juillet et... Et les mêmes peines demandées par le procureur, et notamment, effectivement, ces 3 ans d'interdiction de manifester qui sont quand même révélateurs de l'état de la justice, parce que d'où ça vient tout ça? Au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la ministre de la Justice qui a envoyé un courrier au procureur en leur demandant différentes choses, de favoriser la comparution immédiate, d'avoir des sanctions fortes, et des peines complémentaires allant jusqu'à 3 ans d'interdiction de manifester. Le procureur, au premier procès, qu'est-ce qu'il fait? Il applique ce que la ministre de la Justice a lui a demandé et il demande 3 ans. Le juge, bam, il reprend le réquisitoire du procureur mot pour mot et il nous met 3 ans d'interdiction de manifester. Donc c'est, enfin, on voit bien la collusion qui descend de là-haut et qui arrive sur une peine, quoi. Donc ça c'est complètement inadmissible. Et alors ça c'est une des choses qu'on a attaqué, notamment parce que en premier procès ça a été 3 ans sans donner de lieu de circonscrire l'interdiction, c'est-à-dire que ils doivent circonscrire une ville, une région, une sous-préfète, etc. Donc ça n'a pas été fait. Là le procureur a demandé exactement la même chose sans circonscrire, donc ça on va se battre, hein, parce que c'est aussi contraire à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme conteste tout ça, donc ça fera partie aussi des choses qui vont découler du 2 juillet en fonction de la peine et voir si on va voir la suite, quoi. Mais en tout cas, ça, on va se battre là-dessus. D'accord. Parce que c'est pas normal.
Bah ouais, hésite pas à nous tenir au courant. On attend un autre appel, mais peut-être est-ce que tu veux rajouter un dernier truc, désolé.
Non, écoutez, merci de participer à tout ça. En tout cas, vous le faites. fête, etc. Nous aussi, ça s'est monté aussi suite à cette affaire. Ça a été vraiment un élan de solidarité, aussi de choses concrètes qui sont mises en place. Une équipe légale qui n'existait pas, qui s'est mise en place avec voilà des ateliers, etc. Notamment savoir que nos droits en garde à vue, aussi en prison, parce que par exemple, une chose importante pour nous qui nous a sauvés quelque part, c'est que pendant notre détention provisoire, on a demandé une remise en liberté avant notre procès. Et donc, on l'a demandé parce que à la cour de promenade, il y a des gars qui nous en ont parlé. Et si on l'avait pas fait, en fait, au premier procès, on serait comparu pas libre. Et donc, on aurait eu notre peine. Et en fait, on serait retourné en prison pendant le temps de l'appel. Et donc, ça, c'est vraiment un truc, quelque part, qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis dehors. Parce que en fait, et ça s'est joué à rien. C'était une discussion qui est venue comme ça. Donc, c'est vraiment important d'avant tout ça, d'avoir tous ces éléments-là en tête, parce que ça va très vite. Et on voit bien l'état auquel on fait face et qui est capable de tout. Et je pense qu'il faut... Voilà, c'est juste un petit point là-dessus. C'est hyper
grave. Non, c'est hyper important. Voilà. Et la formation juridique dans les cours de promenade, ça fait partie de la solidarité qu'il y a entre les prisonniers et les prisonnières. Écoute, en tout cas, on croise les doigts, même si on les connaît. Et en tout cas, on pense fort à vous. Et puis, n'hésite pas à nous tenir au courant de ce qui est tombé. On pourra l'annoncer en brève et tout ça. Et en tout cas, si ça continue, on continuera à suivre l'affaire.
Merci à vous pour tout ça.
C'est cool. Bonne soirée à toi. À la prochaine.
Allez, ciao.
On va passer un petit coup de musique avant de recevoir un appel du CRA de Lille.
Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Más que te entren más miedo y control. Patrulla tu vida para tu
campo. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te pone en cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30. Je vous rappelle que pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, et donc il faut bien mettre l'Envolée-FPP. Pour nous appeler pendant l'émission, c'est le 01 40 05 06 10, et sinon, dans le reste de la semaine, vous pouvez nous appeler au 07 52 40 22 48. On attend un coup de fil des CRA, enfin ouais. du centre de rétention, donc la prison pour étrangers de Lille, mais donc ça va arriver.
Voilà. Ouais, parce que donc en gros, donc on devrait recevoir le coup de fil là d'ici quelques secondes. Ce qui se passe, c'est que depuis hier matin, il y a un mouvement collectif en fait dans le CRA de Lille avec un refus de plateau de toutes les zones du centre. Et qui fait suite, en fait, alors, mais bon, ils vous le raconteront mieux que moi, c'est que le centre de Lille, comme la plupart des centres de rétention, on a parlé au cours des dernières semaines, ils sont commencé à se remplir, en fait, avant même la fin du confinement. On a commencé à les remplir, et là, le centre de Lille, il est quasiment plein. Et donc, bien sûr, il n'y a toujours pas de masque, pas de gel, rien pour les prisonniers, pour pouvoir. Et en plus, maintenant, vu qu'ils sont plus si peu nombreux qu'ils ont pu l'être pendant le confinement. Et ben ils peuvent clairement pas faire attention, enfin faire les gestes barrières qu'on dit d'appliquer. Et donc là ils sont en train de faire un mouvement. Alors je crois que ça y est, le coup de téléphone est en train d'arriver. Donc il va nous expliquer un peu pourquoi ils ont lancé ce mouvement hier et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Allô, tu nous entends?
Oui, allô.
Ouais. Du coup, toi, t'es dans la prison pour étrangers, t'es dans le centre de rétention de Lille, c'est ça?
Ouais, c'est ça, monsieur.
Ouais. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux un peu nous décrire? Alors, tu me disais, le centre, il y a plusieurs zones.
Ouais, en fait, on a presque quatre zones. Il y a A, B, C, F. Ils sont tous là. Presque le centre, il est plat. Il y a trop de monde. Ouais.
Genre, il y a combien? Parce que tu disais, là, ils ont commencé. Ça fait une semaine que ça remplit.
Comment?
Là, tu disais, ça fait une semaine qu'ils ont rempli quasiment tout le centre.
Ça fait en plus qu'une semaine qu'il a rempli, ouais, c'est ça, monsieur. Ouais.
Et là, vous êtes combien à peu près?
Et à chaque zone, il y en a presque 20 ou plus que 20. À chaque zone, il y en a des chambres. Chaque chambre, il y en a presque 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à 4 personnes.
Et toujours tout ça sans matériel, bien sûr, pour se protéger, quoi. Sans gel, sans masque.
Ouais, et en plus, avec tout ça, il n'y a aucun moyen pour protéger. On a rien, on a comme des masques de. Déjà l'hydroalcoolique, on n'a rien.
Ouais. Et du coup, hier, il s'est passé un truc. Alors, peut-être tu vas nous raconter du coup que pourquoi là vous êtes en train de faire un refus de plateau depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Oui, en fait, depuis hier, il y a des agents de police ici qui ont déclaré il y a quelqu'un qui l'a été contaminé. On ne sait pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ou il y a quelqu'un qui est avec. Il y a un policier qui travaille avec nous. Il ne veut pas nous dire la vérité, mais je suis sûr et certain, il y a quelqu'un qui l'a été contaminé En fait, il y a des policiers, beaucoup de policiers qui sont dit ça, il faut qu'on fasse attention aussi. Et tout, mais on a aucun moyen pour protéger.
Mais eux, ils ont des masques, c'est ça, depuis hier, ils ont...
Depuis hier, ils ont des masques. Mais avant, ils n'ont pas des masques. Ça fait presque, en plus qu'un mois, ils n'ont pas des masques, ils ne mettent pas des masques. Tout le monde, il n'y a aucun personne qui met des masques. Mais hier, on a remarqué ça, ils ont mis tous des masques, mais non, on n'a aucun masque.
Et ils vous ont juste...
On n'a aucun moyen.
Et ils vous ont laissé entendre qu'il y a
quelqu'un. Des agents de nettoyage, presque chaque jour, il passera et tout. Mais comme hier et aujourd'hui, avant-hier, ils n'ont pas passé. Mais on ne sait pas pourquoi. Et les salles et les zones, ils sont sales. Même les toilettes, ils sont bloquées, ils sont bouchées. Ça sent peu.
Ouais. Ouais, donc en gros, ça a l'air assez clair qu'il y a le virus qui traîne, mais ils ne vous disent rien, quoi. C'est genre, eux, ils se mettent tous un masque, il n'y a plus personne qui rentre.
Ils ont dit, voilà, il y a quelqu'un qui l'a été contaminé, mais ils ne vont pas nous dire la vérité, quoi.
Ouais, ils vous disent pas si c'est un keuf, si c'est l'un d'entre
vous.
Voilà,
ils ont mis des masques, ils ont tout, ils ont... Ouais.
Et du coup...
Il y en a des gens qui sont en adulte, ils ont rattrapé la maladie, ils ont la fièvre, ils font mal la tête et tout, mais...
Ouais, bah, de toute façon,
c'est... passionnel, ça fait plusieurs fois, ça fait deux fois ou trois fois que je demande le médecin. Il n'y a pas de médecin, il n'y a que l'infirmière qui donne des doliprane comme ça et c'est tout.
Ouais, et du coup, quand vous avez vu ça hier, vous vous êtes retrouvé, je crois, le midi, ça, parce que vous avez l'endroit où vous avez les plateaux là, qui est tous ensemble.
Et voilà, en fait, ouais, en fait, les gens qui sont ici, tous, on a parlé pour bloquer et tout. En fait, il y en a deux jours, ça fait deux jours, il y en a quelqu'un qui l'a deux jours, trois jours. Qu'il n'a pas mangé.
Ok, et ça, du coup, c'est tout le monde dans le centre? Ça se passe comment? C'est vous êtes retrouvés tous à l'endroit là où on vous file les plateaux et vous avez décidé de refuser les plateaux?
Ouais, c'est ça, ouais.
Et parce que du coup, vous demandez quoi? Vous demandez déjà peut-être...
Même la bouffe, même la bouffe d'ici, c'est... Désolé, il n'y a personne qui l'a mangé.
Ouais, de toute façon, la bouffe dans les prisons, enfin dans les craves, c'est clairement dégueulasse. Ouais, donc,
C'est ça, monsieur.
Mais là, du coup, vous, ce que vous demandez, c'est déjà d'avoir, si tous les keufs, là, ils mettent un masque, que vous aussi, vous soyez équipés, que surtout, vous soyez informés, j'imagine. Parce qu'il n'y avait pas aussi une histoire avec les parloirs? Ils vous ont un peu menacé de faire
sauter. Ouais, il n'y a pas, ils ont arrêté ça. Ça fait deux jours qu'ils ont arrêté ça. Et en plus, ils ont des amis, des cousins qui nous ramènent des gâteaux, des cigarettes et tout. Il y en a des gens, ça fait deux jours maintenant, ils fument une clope, par sept, ils tournent par sept, même un café. Tous on boit deux ans gobelet, un seul gobelet.
Ouais, parce que c'est ça la différence quand même entre la prison et le CRA, c'est au CRA tu peux pas cantiner, donc tu dépends complètement des parloirs, vu comme tu disais la bouffe elle est imbouffable.
Ouais, on n'a pas des parloirs, non, il n'y a pas, il faut arrêter ça.
Voilà, là il n'y a plus de parloirs, il n'y a plus rien.
Ils ont arrêté ça, ouais.
Mais et c'est quoi la justification qu'ils ont donnée pour couper les parloirs comme ça?
Je sais pas, on a dit, voilà, ils ont dit qu'en quoi ils ont rattrapé, il y a quelqu'un qui a attrapé la maladie à cause de cette maladie corona, Covid-19. Ils ont arrêté le poloir.
Ouais, alors que alors qu'ils vous disent rien d'autre, quoi. Ils disent juste Covid.
Ils disent rien, non.
C'est gros état de stress parce que tu sais pas ce qui se passe.
Ouais, en plus, voilà, on a fait du stress et tout. On a tout le monde en stress ici. En plus, on a. Ouais. Il y en a beaucoup de gens qui sont stressés. Il y en a des gens qui ont la fièvre. Les gens qu'ils touchent, ils font mal la tête et tout. Mmh.
Ouais. Ouais, parce que maintenant que le CRA il est plein, là, s'il y a quelqu'un qui est contaminé à l'intérieur, c'est pour vous, c'est foutu. Enfin, vu que vous n'êtes même pas masqué et tout.
Ouais, il n'y a personne. Vous pouvez venir voir, il n'y a personne qui a du masque ou je sais pas. Même la rentrée, moi, ça fait en plus que 20 jours que je suis là. La rentrée, le premier jour, ils donnaient juste un petit plastique de shampoing comme ça, depuis ça, on n'a pas. Il y en a déjà que ça fait qu'en plus qu'une semaine qu'ils n'ont pas pris la douche.
Mmh. Ouais, c'est chaud.
Ils n'ont aucun moyen pour prendre la douche.
Ouais. Et, oui, donc tu n'as pas non plus le moyen de te laver les mains régulièrement,
ouais,
et tout.
Non,
comme,
non, on n'a pas, non, désolé, mais on n'a pas, ouais.
Bah non, mais c'est ce qu'on n'a pas arrêté de répéter pendant tout le confinement et tout, c'est qu'en fait, à l'intérieur des lieux de privation de liberté, ils ne donnent aucun moyen, et la seule solution, c'est il faut libérer les gens, quoi. Il n'y a pas d'autre...
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on demande aussi. On est stressé, on est... Ouais.
Bah là, de toute façon, même eux, ils avaient reconnu pendant le confinement que dans les crans, on pouvait pas appliquer les mesures, et ils avaient été obligés de les vider un peu. Après, bien sûr, ils avaient bien sûr gardé des gens dedans, mais ils avaient été obligés de les vider un peu pour qu'il y ait moins de gens. Et là, maintenant que les crans sont pleins, clairement, ils peuvent pas.
C'est ça qu'est-ce qu'on demande aussi.
Ouais. Ouais, non, mais il faut clairement qu'ils fassent sortir des gens là. Enfin, si vous, comme tu dis, toutes les chambres sont pleines, que vous êtes 2-3, qu'en plus de toute façon, ils sont foutus de vous filer de quoi vous nettoyer.
Le centre est plein, ouais.
Oui, puis enfin c'est vraiment complètement n'importe quoi et là enfin vu ce que tu décris et vu les inquiétudes qu'il y a en fait il faudrait que les gens puissent être testés ou les gens ils sortent point barre quoi. Enfin il y a un moment faut arrêter de tergiverser quoi. Donc voilà parce que si d'un coup d'un seul ils y changent et puis ils se mettent à avoir des masques, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Et ils ont réagi comment au refus de plateau alors ?
Excuse-moi ?
Non, vas-y, bah, si, mais en fait.
Il y a un policier qui l'a vu maintenant, le groupe de la nuit, il l'a dit voilà, à partir du mardi, il va faire des dépistages, que lui travaille ici. Parce que aussi, ils sont peur, ils sont. Ouais. Ils ont avec nous maintenant là.
Mais donc c'est que pour les gens qui travaillent au
voilà. Au centre d'attention, ils sont peur, ils sont stressés, ils vont faire du pistage ça ou quoi.
Ouais, mais pas pour vous là.
Mais
du
donc
coup.
Pas pour vous.
Non, c'est pour eux, en fait, c'est pas pour nous.
Ouais, ouais mais voilà, c'est complètement intolérable.
Ouais, ils sont devant nous, ils ont tout, les gants et tout, mais non, on n'a rien en fait. Mmh. En fait, il y a un policier qui l'a dit, ouais. C'est le groupe de la nuit qui l'a dit ça.
Ouais.
En fait, il y a quelqu'un qui est gentil, qui les parlait avec nos communs.
Ouais. Non. Bah, c'est aussi pour essayer de calmer le truc et tout. Hein. Enfin, voilà. Et donc, comment s'est passé une fois qu'il y a eu le refus de plateau, ils ont réagi comment à ce refus de plateau ?
Si, ils ont dit, voilà, on va trouver la solution, on va voir, on attend la réponse, c'est pas nous, c'est non, juste on est des travailleurs et tout, mais toujours c'est la même.
Et du coup, vous avez pu voir le gradé ou le commandant ?
Comment ?
Vous avez pu voir le gradé ou le commandant du centre ?
Non, justement, on a demandé au commandant et tout, mais il n'était pas là.
Et il n'est toujours pas venu, là ? Vous ne l'avez toujours pas vu après deux jours
Non, il n'y a personne qui l'a venu nous voir.
Il est peut-être confiné, lui aussi, non ?
Comment ?
Non, je faisais une blague de mauvais goût en disant qu'il était confiné, mais c'est bien la preuve du dédain qu'ils ont et qu'ils n'en ont rien à foutre des gens, quoi. Ouais. Parce que c'est anormal que vous ne l'ayez pas vu, quoi. Enfin,
ouais, c'est peut-être ça, ouais.
S'il y a un truc qui change comme ça, voilà, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et là, ils ont parlé un peu de reprendre les parloirs et tout, ou ça se passe
Non, ils n'en ont pas parlé, non.
Ok. Ouais. Ils disent juste, voilà, et vous Et les associations qui sont normalement, elles sont encore là ?
C'est qui l'association au centre de Lille ?
Non, c'est l'Ordre de Malte, mais ils n'ont pas là peut-être, non. À un moment, ils ont continué. Ouais.
Ils ne sont toujours pas revenus là, depuis la fin du confinement ?
Sinon, je peux vous passer mon copain, qui était avec moi aussi, il va vous parler un peu si vous voulez.
Ouais, bah comme tu veux.
Ouais.
Bah, ouais. S'il veut.
Bonjour.
Ouais, bonjour. Salut.
Ouais. Salut, ça va ?
Bah oui, à toi.
Tranquille. Maintenant, il y a un policier, un bon policier ici, il m'a dit, ils sont peur, il m'a dit, ils sont peur pour le commando ici, il a peur pour les médias et tout, ils découvrent, parce qu'il y a des cas, ils sont contaminés ici, ils se trouvent des cas contaminés ici. C'est un policier, il m'a dit ça maintenant. Il m'a dit, mais tu dis pas, c'est moi qui t'ai dit.
Ouais, parce que comme je te disais, pendant le confinement, ils ont été obligés. Il y a eu une décision de justice, je crois, à Vincennes, dans un centre de rétention de Vincennes, quand il y a eu des prisonniers qui ont enfin été testés et qui avaient le virus. Bah, il y a eu un arrêté qui faisait qu'ils n'avaient plus le droit d'enfermer de nouveau dans ce centre pendant un certain temps. Bon, bien sûr, ils ont enfermé ailleurs, hein, mais c'est juste pour dire que ça les emmerderait bien maintenant qu'ils ont bien rempli les cracks, qu'ils sont obligés de les vider, quoi.
Ouais, mais un policier, il m'a dit ça maintenant. Mais il m'a dit les grands. Plus que nous, parce que c'est un policier normal, il tourne dans les zones, il m'a dit, et c'est les grands, les commandos, c'est eux, ils sont en train de faire ça pour les médias et tout, ils découvrent pas ça. Parce qu'ils sont pas. Tu vois comment ils sont pas.
C'est pour ça que c'est important que vous preniez la parole là aujourd'hui et que vous expliquiez ce qui se passe.
Ouais, parce que depuis 3 jours, 4 jours, on demande des médecins, parce qu'il y a des personnes là, ils sont de la toux, de la fièvre, ils sont parano, ils demandent le médecin, il dit qu'il n'y a pas de médecin, il dit qu'il n'y a que l'infirmerie. Mm. Moi, je suis ici depuis 2 mois et 15 jours, je suis ici, depuis l'ouverture de centre. Mm. Et sur 38 de cas, le policier maintenant, il m'a dit, sur 38 de cas, contaminé, il le transféré à Pas-de-Calais, dans le centre, l'autre à Pas-de-Calais.
D'accord, donc...
Il y a un autre centre à Pas-de-Calais. Ils sont transférés, il y a trop de personnes hier et avant cette semaine.
Ouais, ça c'est parce que le CRA, il est trop plein.
Presque 15 personnes comme ça. Parce qu'on est trop là, on est trop, le centre, il est plein, il est rempli.
Ouais, donc ils sont obligés de transférer ailleurs tellement ils arrêtent et ils enferment des gens, quoi.
Ouais, c'est pour ça, monsieur.
Mais ouais, en tout cas, il va falloir, faut suivre absolument ce qui va se passer et tout. Et donc, je pense que vous êtes déjà en contact avec d'autres poteaux et tout. Mais,
ouais, ouais.
C'est absolument pas normal ce qui se passe et il y a déjà des décisions de justice qui sont tombées. Et c'est pas possible de continuer à enfermer des gens alors qu'il y a ce risque-là qui est hyper important, quoi.
Ouais, il y a des personnes, ils sont en train de mourir. Eux, ils sont en train de nous fermer ici dans les centres de tension. Je peux pas raconter, c'est pur le centre ici. La bouffe d'ici, il passe pas, le temps, il passe pas. Il y a des policiers qui jouent des tortures morales, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection comme les max, les gels hydrauliques. Il n'y a rien.
Ouais, oh, et puis vous disiez, il y a des flics.
Le policier qui m'a dit le truc là avant, il m'a dit même nous on va partir lundi pour faire comment ça.
Le dépistage.
Pour les pistages, je sais pas, c'est un vaccin.
Ouais, mais bon, après voilà, les flics eux, ils ont mis le masque hier, ils vont avoir les dépistages lundi, c'est pour ça que c'est important eux que vous bougiez tous ensemble.
Il m'a dit même les policiers là, ils sont à peur. Même eux, les policiers qui sont là, ils sont en peur. Parce qu'ils ne savent pas, parce que moi je suis malade maintenant, il y a moi un autre, il est malade, il y a moi un policier, il est malade, il est entre nous. On ne sait pas, parce que c'est...
Ouais, mais la différence, c'est que le policier, lui, peut aller voir le...
Il cherche dans l'air, tu ne peux pas savoir est-ce que tu en as ou tu n'en as pas.
Ouais, c'est sûr, mais la différence, c'est que les keufs, eux, ils ont des masques, ils peuvent aller voir le médecin, ils vont se faire dépister la semaine prochaine, alors que vous, en attendant, vous n'avez rien de tout ça, quoi. Donc il y a un moment...
On n'a rien.
C'est marrant qu'ils aient peur, mais bon, c'est quand même surtout vous là qui prenez des risques.
C'est trop malheureux, mais on ne sait pas si c'est comme ça ici.
Et là, les médecins, à l'intérieur de la détention, il n'y a personne.
Il n'y a personne, il n'y a que l'infirmerie.
Ouais. Ben, en tout cas, ouais, on va suivre l'affaire, parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc... Bah non, t'inquiète, c'est normal de vous donner la parole et faut pas hésiter à rappeler.
Tu peux pas savoir comment on est en train de vivre ici, tu peux pas savoir.
Mais c'est pour ça, ouais.
C'est trop malheureux.
Mais ouais, et après, moi, de toute façon, je suis chaud après qu'on se reparle et tout pour écrire un truc ensemble, je pense, pour un peu là, raconter tout ce que vous avez dit et un peu mettre aussi tout ce que vous demandez à l'écrit pour un peu le diffuser au maximum. Parce que comme tu disais, je pense que le chef de centre, ça le fait bien chier que ça sorte. Qu'il y a le Covid dans son CRA et donc c'est vraiment important que ça sorte le plus vite possible là, parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le dire un peu partout et pas dans une semaine ou je ne sais quoi, parce que voilà, le virus il va vite et il attend pas, quoi.
Même les policiers qui sont là, ils disent ça à nous, ils disent le commando, c'est lui qui est en train de cacher la vérité pour y voir pas des problèmes ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a trop de... Maintenant, on dort 3 personnes par chambre. Il n'y a pas... Quand tu rentres, ils te donnent un petit sachet pour tu te laves. Ça fait rien. Il y a des gens ici, il n'y a pas de parloir, il n'y a rien. En plus, ils sont arrêtés les parloirs, ils sont arrêtés tout. Il n'y a pas de produits pour nettoyer les parterres. C'est vraiment dégueu. Tu ne peux pas savoir...
On avait pas mal relayé déjà ce qui se passait dans d'autres CRA et tout ça, et c'est partout la même merde et c'est complètement intolérable. Et donc faut continuer à relayer et puis à parler de ce que vous faites. Et en tout cas, merci de prendre le temps et d'avoir le courage d'appeler et puis de témoigner sur ces conditions qui sont inacceptables.
Non, de rien, ça fait avec plaisir. Merci, avec plaisir.
Ouais, merci, courage à vous.
Et vous êtes en train d'écouter, en train d'attendre nous, en train de parler et tout.
Mais en tout cas, on reste en contact et si il y a encore des trucs à redire et tout et puis à écrire, on continuera à les diffuser. On vous souhaite énormément de force et de courage à là-bas. Et et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Merci. S'il y a un truc, on va appeler à dire.
Ça marche.
C'est la vérité qui se passe ici. Ça marche. Ça. Merci.
Il faut le. Merci. Merci ouais. À toi.
Beaucoup de force. Hein.
Beaucoup de force.
Beaucoup de force.
À bientôt.
Merci. Merci à vous.
À plus. Donc on va terminer l'émission tôt. Voilà. Parce que il y a un certain nombre de remarques qu'on a reçues, voilà. Parce qu'il y a eu les problèmes techniques aussi avec le confinement. On vous a expliqué que c'est moi qui gère le vocal et c'est pas tous les jours facile. mais avant de terminer, on a quand même deux trois annonces à faire.
Ouais, déjà il y en a une qu'on voulait faire au tout début d'émission qu'on a zappé. Il y a la soirée Calimero, la caisse de soutien aux emprisonnés de la guerre sociale qui se tient là, qui a déjà commencé du coup en même temps que l'émission au condo, donc 43 rue de Stalingrad, l'ancienne adresse de l'Envolée à Montreuil. Donc voilà, dépêchez-vous d'y aller si vous êtes dans le coin dehors et c'est pas trop tard pour la session karaoké, je pense qu'il doit commencer maintenant.
Et puis c'est l'occasion de retourner au condo qui a été quand même un lieu de lutte plus qu'important pendant très très longtemps et qui va malheureusement se faire dégager. Donc voilà, c'est le moment d'aller chanter pour les personnes qui sont à l'extérieur pour en solidarité avec les prisonniers de la guerre sociale. Les manifs de la journée de demain, elles ont déjà été un peu annoncées.
Oui. Bah, demain, il y a déjà à 13h à République, il y a la manif dont on avait parlé, je pense, la semaine dernière pour l'anniversaire de la mort de Lamine Dieng là, qui a été tuée par la police il y a 13 ans dans le 20e. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France il y a très peu de temps pour ce meurtre. Et du coup, la famille voilà, qui appelle à se retrouver à République à 13h. Et pour partir ensuite et rejoindre la marche des solidarités qui, elle, donc, va partir à 14h de Nation. Et les deux, normalement, devraient se retrouver vers 15h à Père-Lachaise. Donc voilà, vous allez aussi aller à ces deux marches.
Ouais, et puis on rappelle que la semaine dernière, il y avait Fatou et Ramata qui étaient présentes. Et donc, si vous voulez réécouter l'émission, faut pas hésiter. Voilà.
Ouais, juste une dernière brève qu'on voulait dire, c'est qu'il y avait une prisonnière là, qui avait essayé de s'évader de la MAF de Fleury en novembre dernier, novembre 2019, qui là a pris 8 mois ferme il y a une semaine, voilà, son jugement, là, pour rappeler qu'on continue à condamner à du ferme les gens qui essayent de retrouver leur liberté.
Grave, et on lui souhaite plein de force à elle. On va passer au coucou. Tous les gens qui sont à Fresnes, qui nous écoutent, Serge, le dessinateur, le poteau, et il y en a sûrement d'autres aussi, des gens à Fresnes. Voilà, à Fleury, on passe un coucou à Franck, à la personne qui se reconnaîtra, et voilà.
Bah, si jamais l'infâme, tu captes cette émission, je sais pas, vu qu'on est rediffusé parfois dans le sud, un gros coucou à toi.
Et un dernier coucou qu'on avait oublié, c'est pour Fabrice qui a été transféré à Valence il y a 2 semaines maintenant et à qui on souhaite vraiment plein de force. On sait pas encore quelles sont les conditions qui l'attendent là-bas, mais voilà. Donc rediffusion mardi matin à 8h30 si mes souvenirs sont bons. Force, courage et détermination à la semaine prochaine et comme dirait l'autre, il n'y a pas d'arrangement.
On croit dans un monde civilisé, mais c'est vraiment la jungle. Et dans cette jungle, si t'as envie de vivre, t'as intérêt à faire partie des animaux les plus forts. Si tu fais partie des autres, tu es juste un bout de gibier bon à sauver ton cul en courant toute ta vie. Mais tout ça, c'est de la loterie. Et tout se décide à ta naissance. Soit t'es né pauvre, comme la grande majorité, et tu encaisses la puissance des autres, mais à force d'être humilié, tu deviens parfois violent. Soit t'es né riche, et alors tu fais gaffe à ton fric. Tu fais comme les autres, et tu fais semblant d'aimer ta femme, tes enfants, tes amis, comme eux font tous semblant de t'aimer. amis.
Écoute. On choisit pas son pays, pas ses parents. Ça c'est l'étoile qui décide, te dessine. Et si t'efface et nettoie, ça commence sur le regard et passe en casse, en stressé. Il s'amaigrit entouré de gens, ne pense en casse, en graisse. Et elle le pèse, lui pense que la tasse a gaffé. 22 ans qu'il dit merci après chaque pièce mise dans la tasse à café. Marseille, tu mets 60 billets, 60 cartes. Marcel, né sous l'étoile noire un soir, tu es 64. Parmi tous ceux qu'elle a vu naître, sans se regretter la vie. Moïse, 5 années peut-être, 37 degrés, t'es la vive. Une mère autoritaire, un père propriétaire aux arts. Lui pour la tête qu'on fait la guerre, qu'on pile la terre aux arts. De l'autre côté, gros, c'est Gaza, des carrelages russes. Pour manger, se battre caillou contre des carrelages russes. Hassan, loin de ces gens codifiés, brutes. N'est pas méchant, mais tous ces champs d'olivier brûlent. Et y'a Rawan, tout allait bien dans pas longtemps, 8 ans. Et c'est ça ou rien, c'est tout ce qu'un saoudien, 40 ans, 8 ans. Juste avant, c'est son beau-père qui rit en tête deux fois. Puis il pria, la vendu pour 10 000 rials à une bête deux fois. Les râles d'un enfant entend ça, elle est en plein naufragile. Lui fera vivre l'impensable, mais elle est bien trop fragile. Pour leur mémoire, un jour l'indécence est un drame. Et t'es bienvenu sous l'étoile noire, là où la naissance est un drame.
Moi c'est pareil, hein, je lutte. Et j'ai toujours lutté. Je sais, t'es comme moi, t'es né sous une mauvaise étoile. C'est qu'il y a des riches, il y a des pauvres, c'est toujours les pauvres qui payent. Et nous, on fait partie de ces pauvres. On va venir toujours me voir. Ça fera plaisir.
Il pourrait parler de la peur, atterrer sa flamme, sa fille. 80 balais de la peur, atterrer sa femme, sa fille. Personne ne viendra ressonner les rides d'une Bible matelas. Solitude est au sommet, l'urine un Bible matelas. Un vieillard dégoûté de vivre a débouché chaque rêve. Un désert de bouteilles vide où les mouches et chaque rêve. Il est à l'horizontale, le pompier dans la maison tape. Mais il est mort les mecs, si l'étoile noire fait son taf. La misère mort les mêmes. J'ai lié à sa s'anime, elle file après la vie qu'elle voulait offrir à sa famille, elle file après l'africaine. Plus de bateaux sur le sable lourd de 500 autres. Elle repense les blessures, le sable au jour de fin sans eau. Elle aurait voulu voir le soleil refaire fondre la merde. Mais elle est dans le plus grand des sommeils, dans le fond de la mer. Tu me rappelais que l'on paye tous. Fous-moi la paix, ceux qui paient le plus sont dans la baie de Lampedusa. Dans les rues de chaos, le chaos là tout sang. Dans un bordel de Macao, le chaos a 12 ans. Les orphelins de Brazza, les forces nées du Pérou. À force tu connais Gaza, les sorts connaissent du Pérou. Tu la colère au Kenya, mais regarde les sacs. Calme, le choléra le teigne, le cartel et sa cam. Tu crois vraiment qu'un jour l'indécence s'éteindra? T'es plein d'espoir pour leur bienvenue sous l'étoile noire où la maison s'éteindra.
Ça y est, j'ai chuté. Et je suis dans la merde. J'y suis tout entier, tout au fond. Mais je n'ai pas peur, au contraire, je ne demande de l'aide à personne. J'irai plus loin. J'irai jusqu'au bout. Je creuserai un tunnel dans cet océan de merde qui m'entoure. C'est ça l'intérêt. Allez-y.